Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez « Nos auteurs vous parlent », un podcast proposé par Lefèvre Dalloz. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Muriel Ubeda-Sayar, professeure agrégée de droit public à l'Université de Lille, pour évoquer avec elle la sortie de son ouvrage « La justice pénale internationale au service de la paix mondiale », publié aux éditions Tirées à part chez Lefèvre Dalloz.
Madame Ubeda-Sayar, bonjour.
Bonjour Angeline.
Alors Muriel, vous êtes professeure agrégée de droit public à l'Université de Lille, mais vous n'êtes pas que cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en quelques mots ?
Oui, alors j'ai eu un parcours classique. J'ai soutenu une thèse à l'Université Paris-Nanterre en 2009. Et puis j'ai eu le premier concours de l'agrégation de droit public en 2014. Et j'ai pris comme affectation l'Université de Lille, où j'ai eu la chance de pouvoir créer un Master 2 consacré à la justice pénale internationale. Et le président de l'université de l'époque m'a fait confiance aussi, m'avait permis d'être vice-présidente aux affaires juridiques institutionnelles. J'ai exercé des fonctions pour le compte du ministère des Transports, puisque je m'occupais du tunnel sous la Manche, plus exactement, donc droit ferroviaire européen. Et j'ai aussi plaidé devant la Cour internationale de justice dans l'affaire qui opposait la République démocratique du Congo à l'Ouganda, pour la question des réparations des violations du droit international commises par l'Ouganda. Je m'occupais du chef de préjudice des atteintes aux personnes, donc meurtre, viol de guerre, torture, déplacement forcé de population, voilà. C'était vraiment un grand privilège de pouvoir plaider évidemment devant la Cour mondiale, hein, qui est la Cour internationale de justice. Et surtout de plaider dans cette affaire Ouganda, République démocratique du Congo, parce que je trouve que la situation en République démocratique du Congo n'est pas suffisamment peut-être mise en lumière. Hein. Les exactions continuent à l'est du pays. C'est un conflit entre 1998 et 2003 qui a fait presque 4 millions de victimes. Donc, on l'a d'ailleurs appelé la guerre mondiale africaine. Donc, c'était évidemment un grand privilège, un grand honneur de pouvoir défendre les victimes congolaises devant la Cour.
Alors j'imagine que quand on plaide ce genre d'affaires, on est amené à s'intéresser au maintien de la paix et à la coexistence pacifique entre les nations. Votre parcours me permet de rebondir justement sur la notion de paix, parce que vous venez de publier chez Lefèvre Dalloz, aux éditions Tirées à part, un ouvrage qui s'intitule « La justice pénale internationale au service de la paix mondiale ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cet ouvrage ?
La genèse de cet ouvrage, elle correspond en fait à mes travaux, hein, de recherche, à ma spécialisation en droit international. J'ai beaucoup écrit sur le maintien de la paix. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est une alchimie mystérieuse, la fabrique de la paix. Comment on peut amener des groupes humains à vivre ensemble malgré leurs différences, comment on peut maintenir la coexistence pacifique au sein d'une société nationale, au sein d'une région ou dans l'ensemble du monde. Ce sont des problématiques finalement qui transcendent le droit, je crois, et qui permettent de s'interroger sur ce qui fait notre humanité et ce qui peut nous conduire finalement à vivre sereinement au sein d'un même monde. Et d'ailleurs, je viens de publier un article dans la revue Pouvoir sur la prévention de la guerre civile. Donc voilà, la genèse, ça vient vraiment de mes travaux et de ma spécialisation en droit international. J'ai voulu me pencher sur les premiers auteurs qui se sont intéressés à la question de la paix internationale et qui ont imaginé comment le droit pénal pourrait être mis au service de la paix mondiale.
Vous parliez des premiers auteurs de la doctrine de droit pénal qui se sont intéressés à la notion de paix internationale. Parmi eux, évidemment, on peut penser à Vespasien Pella. Alors pour nos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, qui était-il et pourquoi est-il incontournable aujourd'hui ?
Il est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'il a un double profil. Hein. À 25 ans à peine, il est professeur agrégé des universités et diplomate représentant son pays, la Roumanie. Et ses travaux dans son ensemble, dans leur ensemble, hein, sont des travaux qui témoignent de sa nature humaniste. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'évolution du droit au service de l'humanité, À une époque où on voyait le droit international comme une discipline qui était censée régir uniquement les rapports entre États et concerner très peu finalement la vie des gens. Donc voilà, je voulais peut-être lui rendre justice en le mettant en lumière, en mettant en lumière sa contribution au développement de la justice pénale internationale. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'audace, hein, qui n'hésitait pas à assumer des positions d'avant-garde, une pensée vraiment visionnaire qui le conduisait souvent à écarter le droit positif, c'est-à-dire le droit tel qu'il existe, hein, pour envisager des évolutions qui à l'époque paraissaient totalement impensables. Pella, par exemple, ça va être un des auteurs qui va fonder, avec d'autres collègues, l'Association internationale de droit pénal en 1924. Et puis ensuite, il va être appelé en 1945 pour collaborer avec le tribunal militaire international de Nuremberg. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est à la pointe de ces idées d'avant-garde. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de consacrer cet ouvrage de la collection Tirée à part à Vespasien Pella.
Dans cet ouvrage, vous commentez un article de Pella qui a été rédigé en 1947. En quoi le droit pénal a-t-il été au service de la paix mondiale au moment où il rédige cet article en 1947 et où en est-on aujourd'hui ?
À l'époque où Pella écrit l'article, le traité de Versailles a échoué, mais 1947, on est juste après la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Donc cette fois-ci, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés non seulement préviennent les différents responsables des puissances de l'Axe qu'à la fin de la guerre, ils seront jugés pour les crimes qu'ils ont commis, et donc à l'époque, c'est le crime contre la paix, qui est aujourd'hui l'agression, et les crimes de guerre, évidemment, et les crimes contre l'humanité. Suite à ce précédent, hein, des tribunaux militaires internationaux, il va falloir attendre longtemps, du fait de la guerre froide, pour que d'autres juridictions pénales internationales soient créées. Et puis en 1998, la Cour pénale internationale. Donc on voit bien qu'à la fin du XXe siècle, pour une grande partie de la communauté internationale, c'est vraiment pas de paix sans justice, et notamment sans justice pénale. Aujourd'hui, il y a une contestation d'une partie de la communauté internationale, avec des États puissants, évidemment, qui, au nom du relativisme des valeurs, du relativisme des droits, estiment que la justice pénale internationale n'est pas la solution aux souffrances de l'humanité et sans doute pas la solution pour maintenir la paix. Alors, c'est quelque chose, évidemment, d'intéressant, y compris au plan philosophique, hein, qui dépasse le droit, hein, la question du relativisme. Y a-t-il un universalisme des valeurs ou non ? Après, moi, ce que je constate en tant que professeur de droit international et en tant que citoyenne engagée, c'est que les États qui brandissent l'argument du relativisme le font souvent pour couvrir leurs exactions et le fait qu'ils piétinent allègrement les droits de l'homme. Donc, moi, j'attends finalement qu'une nation invoque le relativisme, mais pour renforcer les droits de l'homme et pas pour les violer.
Merci beaucoup Muriel pour cet échange, c'était très intéressant et très éclairant. Alors je me tourne maintenant vers Camille Briet. Bonjour Camille. Alors Camille, tu es responsable d'édition chez Lefèvre Dalloz et tu as accepté de venir nous parler de la collection des tirés à part Lefèvre Dalloz. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut retenir de cette collection qui a une place toute particulière dans l'offre des éditions Dalloz ?
Eh bien, la collection Tirée à part a une vocation qui est de publier des textes brefs de notre passé, des textes qui vont être jugés fondateurs, soit parce qu'ils sont précurseurs, soit au contraire parce qu'ils sont désavoués dans les pratiques contemporaines du droit et du pouvoir. Donc on va extraire un morceau d'un livre qui va être un chapitre, un article, et qui entre en résonance avec des préoccupations d'ordre intellectuel, social. Et c'est pourquoi ce morceau est tiré à part afin d'alimenter la réflexion inédite du commentaire qui l'accompagne. La collection Tirée à part est une forme de dialogue entre deux auteurs qui sont séparés par le temps. On a l'auteur du texte ancien et l'auteur du commentaire. Donc chaque volume de la collection est un livre réellement nouveau, écrit à quatre mains. Éditorialement parlant, pour nous, il était important de rendre compte de cette dynamique avec un format original. Donc chaque volume de la collection, qui sont des tout petits volumes d'une centaine de pages, sont réversibles. C'est-à-dire que la lecture peut se commencer soit par le texte ancien, soit par le texte actuel, selon le bon vouloir de notre lecteur. L'esprit de la collection est donc de faire un pont entre passé et présent. Cette collection a été créée en 2012. Elle est dirigée actuellement par Marie-Angèle Hermite et Muriel Ubeda-Sayar, qui ont pris la suite de Bernard Edelman et de Stéphane Riels.
Merci beaucoup Camille. Je suis sûre que ça va donner envie à nos auditeurs de découvrir cette belle collection. Muriel, je reviens à vous. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes aussi co-directrice de cette collection avec Marie-Angèle Hermite, dont vient de parler Camille. Et j'aimerais savoir ce qui vous a décidé à accepter cette mission.
Eh bien, deux choses. D'abord, j'aime beaucoup Marie-Angèle Hermite. Et ensuite, j'aime beaucoup la collection. Marie-Angèle, c'est une femme que j'admire beaucoup, qui a eu une très belle carrière, qui était directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS. C'est une fine intellectuelle qui assume un esprit original, décalé. Vous ne trouverez pas de prêt-à-penser chez Marie-Angèle Hermite. Donc voilà, c'était vraiment un honneur quand elle m'a demandé de co-diriger la collection avec elle. Et j'y ai vu tout de suite, évidemment, de grandes réjouissances, hein, parce que quand on travaille avec quelqu'un qui a l'envergure de Marie-Angèle, on apprend beaucoup et puis on rit beaucoup aussi. Et puis alors ensuite, la collection, c'est une collection que je connaissais en tant qu'étudiante et puis ensuite jeune chercheur. Je trouve que c'est une collection qui est très chic visuellement, avec une vraie originalité hein, de la couverture réversible, le texte qui peut se lire dans les deux sens. Il n'y a que cette collection, à ma connaissance, hein, qui est structurée de cette façon. Et cette originalité de la forme, finalement, elle traduit très bien l'originalité du fond. Se replonger dans ce que pouvait être la doctrine du début du XXe siècle pour finalement éclairer ce qu'on vit aujourd'hui au niveau des relations internationales, c'était un exercice passionnant. Je suis très heureuse de co-diriger cette collection, qui est une collection, je le dis, à destination non seulement des auditeurs, mais de mes collègues, hein, qui est une collection tout à fait ouverte à toutes les branches du droit. Donc n'hésitez pas, évidemment, à nous soumettre vos manuscrits, droit social, droit commercial, droit pénal, droit administratif, droit constitutionnel. On peut vraiment traiter de tous les sujets, de toutes les branches du droit, dès lors que, comme l'a dit Camille, on commente un texte qui a une résonance particulière, soit parce qu'il était précurseur des évolutions juridiques qu'on connaît actuellement, soit au contraire parce que la doctrine et le droit positif n'ont pas suivi.
Muriel Ubeda-Sayar, merci beaucoup. Je crois que l'appel à candidature a été entendu. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous rapprocher des éditions Dalloz.
Retrouvez la collection Tirée à part à la librairie Dalloz rue Soufflot à Paris, sur le site www.boutique-dalloz.fr et dans toutes les bonnes librairies. Nos auteurs vous parlent, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode.